Je suis vraiment ravi de venir ici vous parler de Myopus et de ce qu'elles pourront faire, j'espère, pour l'homme et la santé publique en général. Et donc, c'est avec plaisir que je suis venu vous raconter ça. Donc, je vais utiliser un support vidéo ou diapo pour vous montrer ça. J'espère que vous m'entendez bien. Tout le monde, il y a un écho, mais je ne sais pas si ça gêne ou pas. Bon, en tout cas, on y va. Donc avant de vous dire ce que sont les biopuces, vous les définir et de regarder avec vous quelles sont éventuellement leurs applications en médecine et en santé publique, on va commencer par dire ce qu'elles ne sont pas. Donc ce n'est pas ce qui est représenté sur cette diapositive. Donc je ne sais pas si vous verrez la souris qui est là. Je vous montrerai avec la souris qui se promène des choses. Donc en tout cas, ce n'est pas la domestication des fourmis pour faire fabriquer à ces fourmis des puces électroniques pour vos ordinateurs comme dans un roman de Bernard Weber. C'est pas du tout ça, et on va y revenir et définir ce que c'est. Pour bien comprendre ce que c'est et ce que ça pourra devenir, je suis obligé de refaire un parallèle avec la révolution informatique qui est représentée sur cette diapositive. En fait, vous savez, vous rappelez peut-être, vous savez sûrement qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est pas si vieux que ça, les ordinateurs, ça prenait des pièces entières. Ici, c'est une photographie d'un ordinateur qui s'appelait le Mark II. Et qui pouvait le voir, il y a une indication d'échelle ici, ça faisait une pièce entière de 5 mètres. Les transistors, en fait, c'était des bouteilles comme ça, qui étaient des ampoules à vide, qui faisaient des transistors, d'où la place nécessaire pour faire ça. Et puis, petit à petit, avec l'apparition des diodes d'abord, puis des circuits intégrés ensuite, pour arriver au microprocesseur enfin, vous voyez qu'il y a une réduction d'échelle. Grâce à la réduction d'échelle, il y a eu une augmentation du parallélisme et du nombre de transistors qu'on était capable de mettre sur une surface. Ça a été encore plus le cas avec les circuits intégrés. Et donc, avec l'apparition des microprocesseurs, c'était pas il y a 100 ans, c'était pas il y a 50 ans, c'était au début des années 70. Donc il y a à peine une trentaine d'années. Ça paraît plus vieux que ça aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout le cas. On a été capable de mettre sur des toutes petites surfaces, vous voyez l'échelle ici, 0,5 mm, hein, c'est tout petit, dans la moitié d'un centimètre, des puissances de calcul phénoménales qui dépassent largement celles qu'on avait ici. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai lu récemment que sur nos ordinateurs aujourd'hui de table, comme celui-là, on a beaucoup plus que les super ordinateurs, super calculateurs qui ont permis de nous poser sur la Lune en 69. Donc on a vu apparaître ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire l'augmentation de la puissance des mémoires et de du flux d'informations dans un ordinateur qui double tous les 18 mois grâce à l'apparition de ces microprocesseurs. Donc ça, c'était au cœur de notre évolution informatique avec deux conséquences. La loi de Moore que je viens d'évoquer, et un corollaire qui est l'apparition des microprocesseurs dans les biens de grande consommation partout, de vos brosses à dents, vos téléphones portables, etc. Et je crois qu'en biologie, on vit exactement la même révolution que je vais vous exposer maintenant. Mes maîtres travaillaient à l'échelle du litre dans des tubes qui étaient, des récipients qui étaient un peu plus gros que ces verres-là. Ma génération de biologistes moléculaires a commencé à travailler à l'échelle du millilitre dans des tubes qui sont représentés sur cette diapo ici et que vous voyez ici dans ma main, ce petit tube vert ici. Et ensuite, avec l'apparition de la génomique, c'est-à-dire travailler sur tous les gènes d'un humain, on a commencé à utiliser ces plaques qui sont en photo ici, que vous voyez ici en taille réelle, avec 96 puits séparés en colonnes et en lignes. On est très vite passé sur le même format, 384 puits, avec l'apparition de la génomique. Et puis maintenant, vous avez une puce du CEA ici, qui fait à peu près cette taille-là, et dans laquelle il y a 8100 cupules, chaque cupule étant toute petite, 100 microns de diamètre, et contenant 300 picolitres à peu près. Alors, on travaille ici, c'est marqué ici, à l'échelle du picolitre. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous scientifiques, picolitre, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Donc, c'est 10 puissance moins 12 litres. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente, dans ce tube ici, on pourrait mettre 1 millilitre. Donc je vais prendre ce millilitre, je vais le diviser 1 milliard de fois pour avoir un picolitre. Et là non plus, ça ne dit pas grand-chose sur ce que ça représente. Donc je vais vous le dire autrement, essayer de le dire autrement, c'est ce millilitre que j'aurai dans ce tube-là, je vais pouvoir donner à boire à toute la population française avec, ils auront déjà beaucoup plus qu'un picolitre. Et ça commencera à ressembler à un picolitre si je prends ce millilitre-là qui est dans ce tube et que je donne à boire à toute la population chinoise, On va estimer qu'ils sont 1 milliard. Et donc, ils auront chacun 1 picolitre. Ils ne reviendront pas deux fois, hein, ils n'auront qu'un picolitre. Donc, 1 picolitre, c'est ce que vous avez dans les biopuces aujourd'hui qu'on utilise. Donc, c'est cette quantité de liquide, une toute, toute petite quantité, 10-12 litres, qu'on peut manipuler et véhiculer. Alors pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a réduit la taille comme ça pour pouvoir paralléliser les mesures, en mesurer plusieurs à la fois? Ce n'est pas simplement pour faire comme les informaticiens et les copier et faire une révolution biologique qui ressemble à celle de l'informatique. Ce n'est pas non plus parce que c'est un effet de mode, tout ce qui est petit est mignon, et plus je travaille avec des objets en grand nombre, mieux c'est, etc. C'est simplement parce que la biologie, c'est compliqué, on a du mal à l'aborder, on a du mal à la comprendre. Tous les biologistes et les médecins doivent faire preuve d'humilité aujourd'hui. Soyons clairs, on est loin d'avoir éradiqué le cancer, on ne sait pas soigner les maladies génétiques, on ne sait pas soigner les maladies virales. Donc si on a fait des progrès indéniables, notamment grâce à la chirurgie, il y a encore des tas de choses qu'on ne comprend pas, qui restent à découvrir. Et à notre corps défendant, c'est simplement que la biologie est très complexe. Et je vais essayer de vous le rappeler ici en 2-3 diapos. Donc le principe de base de la biologie, le dogme central pour les biologistes, c'est celui qui est ici représenté sur cette diapo. Donc on a un gène dans nos cellules. Ce gène, en amont de chaque gène, il y a une espèce d'interrupteur. Vraiment, ce sont des protéines qui font ça, mais ça ressemble vraiment à un interrupteur qui fait que soit le gène est on, soit le gène est off, donc éteint ou allumé. Quand il est allumé, le gène fait des produits. Alors le premier produit qu'il fait, c'est cette entité-là qu'on appelle un ARN messager ou un transcrit. ARN messager parce que les gènes, ils sont contenus dans le noyau de la cellule. En fait, c'est comme à la Bibliothèque nationale, on peut consulter les ouvrages, mais on ne peut pas les sortir. Donc les gènes, c'est pareil. On peut aller les consulter dans le noyau, mais on ne peut pas les sortir du noyau. Donc la cellule a inventé un système pour faire ça. Les gènes sont dans les noyaux de la cellule. Et pour véhiculer l'information qui est contenue dans le gène, qui permet le fonctionnement cellulaire, les cellules elles font un ARN messager qui, comme son nom l'indique, va véhiculer l'information du noyau vers le reste de la cellule pour la faire fonctionner. Et ce qui fait fonctionner les cellules in fine sont des protéines, qui est la brique de base du fonctionnement de la cellule. Donc toute la cellule de tous les organismes sur Terre, commençant par les bactéries ou les virus, finissant par l'homme, le long d'évolution, fonctionne sur ce dogme-là. Alors, c'est devenu un peu plus complexe, c'est pas aussi simple que c'est représenté ici, mais pour ce soir, ça suffira. Retenez aujourd'hui ce dogme-là, donc j'ai un gène qui donne un ARN messager, qui donne une protéine. Et est-ce que c'est si complexe que ça? Eh bien oui, parce que dans chacune de nos cellules, et on en a 10 puissance 13. Alors 10 puissance 13, pareil, ça ne vous dit pas grand-chose, c'est entre 10 000 et 100 000 milliards de cellules. Donc il y a 6 milliards d'individus sur Terre. Là, on a dans chacun d'entre nous, bon, on n'est pas tous égaux, moi j'en ai un peu plus, d'autres un peu moins, mais en tout cas, dans chacun d'entre nous, il y a largement plus que le nombre d'individus sur Terre en termes de cellules. Vous avez 100 000 milliards de cellules. Vous en perdez plusieurs milliards tous les jours, notamment par la peau, hein, quand on pèle. Même si on ne pèle pas, on en perd quelques milliards tous les jours. Dans le cerveau aussi, malheureusement, et partout. Mais on en a beaucoup, donc on peut faire avec. Et dans chacune d'entre elles, vous avez 30 000 gènes, chez l'humain uniquement, je parle. Hein. Vous avez 30 000 gènes. Vous avez ces ARN messagers au nombre à peu près de 450 à 500 000, d'entre eux, en nombre de molécules. En termes de protéines, ces briques de base qui font le fonctionnement cellulaire et le votre fonctionnement, vous, que ce soit du cerveau à votre foie, etc., on parle de 2 à 10 millions de protéines, suivant les auteurs. Et en termes de petites molécules qui sont essentiellement des produits chimiques, si vous voulez, on est à 100 millions de petites molécules. Donc dans chacune, j'insiste bien, de nos 10 puissance 13 cellules, on a à peu près 100 millions de pièces détachées. Je résume, c'est beaucoup plus que ça, mais on va dire 100 millions de pièces détachées. Pour vous donner un ordre d'idée aussi, et faire comprendre les choses, chacune de nos 10 puissance 13 cellules, donc avec 100 millions de pièces détachées pour fonctionner, c'est à peu près 100 fois plus complexe qu'une navette spatiale. Une navette spatiale, aussi fascinant que ça ait l'air, c'est à peu près 1 million de pièces détachées. Donc c'est rien à comprendre et à modéliser. C'est pour ça qu'on sait les faire d'ailleurs. Par contre, comprendre comment fonctionne une cellule, ben, c'est comprendre comment s'agence 100 millions de pièces détachées. Et c'est difficile, c'est pour ça qu'on n'a pas tout compris, loin de là, qu'on n'a pas fini de comprendre tout ça. Et c'est surtout pour ça qu'on a fait cette révolution que j'évoquais ici, pour essayer d'aborder cette complexité. Avant, on travaillait avec à cette échelle-là, au singulier. J'aime bien dire au singulier. Et maintenant, on essaye de travailler au pluriel. Vous avez vu que les gènes sont pluriels, les protéines sont plurielles. Donc, on essaye de travailler sur tous les objets biologiques pour aborder la complexité. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin de réduire la taille, miniaturiser, pour pouvoir paralléliser les mesures. Et donc là, je rejoins Montesquieu et Sabater et les autres philosophes en disant qu'on a été forcé historiquement de travailler à cette échelle ici parce qu'on n'avait pas les outils pour travailler à des échelles plus basses et avec un parallélisme plus important. Alors, quand je dis parallélisme, c'est simplement la capacité à mesurer simultanément des objets biologiques, quels qu'ils soient, des gènes, des ARN messagers ou des protéines. Donc, c'est pour ça qu'on a cette révolution et ces biopuces et qu'on les utilise pour comprendre le vivant. Donc, vous comprenez mieux ce que sont les biopuces aujourd'hui. C'est pas, encore une fois, pas la domestication des fourmis. C'est vraiment des outils pour étudier le vivant et mieux le comprendre. Donc les biopuces aujourd'hui, de façon simple, enfin aussi simple que je puisse le concevoir moi, mais on pourrait simplifier peut-être encore plus, c'est en gros trois gros axes. Un axe qu'on va évoquer l'un après l'autre ce soir, en vous donnant chaque fois les applications en médecine et en santé publique. Le premier axe, je suis désolé pour l'emploi du mot anglais, mais il n'y a pas de bonne traduction en français de ce mot-là. On va dire puce. Hein. En fait, ce sont des systèmes miniaturisés sur lesquels on dépose des objets biologiques par dizaines de milliers. Alors, ça peut être différents objets biologiques, des gènes, des protéines, etc. Je vous donnerai des exemples. Le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle les labos puces, avec au cœur des labos puces la microfluidique. Donc, en continuant le parallèle avec les puces électroniques que j'ai fait au début, la microfluidique est au labo puce et au biopuce en général, ce que le transistor a été à la puce électronique. Elle est au cœur du fonctionnement de la puce et la microfluidique est importante, et j'y reviendrai. Et le dernier axe, enfin, c'est celui qui mérite le plus le terme de biopuce, générique de biopuce, c'est vraiment l'interaction entre le vivant et l'électronique, et je vous donnerai des exemples. Et ces trois axes ont pour terme générique le terme biopuce. Donc les biopuces, c'est cet ensemble d'outils à l'interface de l'électronique, du vivant, de la physique et de la biologie. Donc commençons par le premier axe, avec ce qui est le plus connu aujourd'hui, qui n'est pas si vieux que ça, c'est apparu dans les années, au milieu des années 90, 95 exactement, sont les puces ADN. Alors les puces ADN, mais je ne vous l'ai pas présenté encore ici. C'est ici, je n'ai pas de diapositive. Donc vous avez vu la réduction de taille, hein, et le parallélisme. Donc on était à 7. Et maintenant on a les puces ADN. En fait, ce n'est pas du tout cette boîte ici qui est si grosse simplement pour la maintenir. C'est, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce carré de un peu plus d'un centimètre carré, c'est ça la puce ADN. Et sur ce carré-là, qui fait à peu près un centimètre carré, on a 400 000 dépôts biologiques, 400 000 trous comme ça, si vous voulez. Donc là, pareil, pour vous donner un ordre d'idée, je sais pas, à Bordeaux, je ne sais pas combien il y a d'habitants, mais ça doit être pas loin de 400 000. Donc il y a autant d'habitants que Bordeaux, peut-être qu'il y en a un peu plus, sur cette surface-là. Donc c'est énorme. Et ça nous permet de mesurer une toute petite fraction de tous les objets biologiques qui sont dans la puce. Alors ça, c'est une puce ADN avec 400 000 spots comme ça. Vous les voyez ici, ces spots-là. Chaque spot étant nous permettant de mesurer un ADN. Alors, qu'est-ce que ça fait des puces ADN ? Eh bien, rappelez-vous ce que je vous ai montré tout à l'heure, cet interrupteur en amont de chaque gène. En fait, donc, dans votre œil, vous avez 30 000 gènes. Dans votre foie, vous avez 30 000 gènes. Dans les cellules de votre cerveau, vous avez 30 000 gènes. Dans chacune des cellules, il y a 30 000 gènes. Mais bien entendu, pour faire fonctionner l'œil, on n'a pas besoin des mêmes gènes que pour faire fonctionner le foie ou le cerveau. Donc, devant chaque gène, on a cet interrupteur qui fait que le produit du gène va être fabriqué dans la cellule si elle en a besoin. Dans l'œil, je vais faire fabriquer ma rétine, les bâtonnets, les cônes, tout ce dont la cellule a besoin pour fonctionner. Mais dans mon foie, je vais faire fonctionner autre chose, fabriquer autre chose. Donc, les gènes sont éteints ou allumés dans les cellules en fonction des besoins. La puce à ADN, ça permet de voir ça, d'étudier si les gènes sont allumés ou éteints. Simplement, on peut le faire sur tous les gènes à la fois, puisqu'on a 400 000 gènes sur la puce, qu'on a 30 000, donc on a même des réplications de chacun des gènes, et on peut regarder pour chacun des gènes s'ils sont allumés ou éteints. Alors bien sûr, on pourrait comparer l'œil, le foie, ce qu'on fait, mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Par exemple, on peut comparer une cellule cancéreuse et une cellule saine, regarder les gènes qui s'allument ou qui s'éteignent dans la cellule cancéreuse par rapport à la cellule saine chez un même individu pour essayer de comprendre, en regardant les gènes qui sont allumés, en se disant peut-être que ces gènes-là ont été importants pour passer à l'état cancéreux pour la cellule. Donc c'est ce qu'on fait. Donc on va prendre ici, on va marquer en rouge, on va aller chercher les ARN messagers, hein, vous vous souvenez, c'est le produit du gène, ce qui permet à l'information de sortir. Dans une cellule cancéreuse, on va les peindre en rouge, si vous voulez. On va regarder la cellule saine, on va les peindre en vert. On va mettre tout ça sur la puce, et au bout du compte, après lecture, etc., je passe sur les détails techniques. Quand j'ai des spots, chaque spot étant un gène, mais il peut être en duplication pour avoir une mesure précise, ou en plus que ça, sur ces puces-là, on a 20 répliques de gènes. Chaque fois que j'ai un gène en rouge ici, c'est que ce gène-là fait beaucoup de produits dans la cellule, il est allumé, on va dire, alors que quand il est en vert, comme ici, le gène est éteint, il n'est pas utilisé par la cellule. Et donc, de proche en proche, comme ça, on arrive à comprendre quels sont les gènes qui ont l'air importants pour la cancérisation et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont nécessaires. Et quand c'est en jaune, comme ici, c'est qu'il n'y a pas de modification, il n'y a pas de différence entre les deux types cellulaires. Donc voilà pour les puces ADN. Alors ça, c'est apparu au milieu des années 90. Et sur ce concept-là, bien entendu, maintenant, on peut mesurer tous les objets biologiques. Il est sorti des puces à protéines. La photo n'est pas très belle, vous ne voyez pas, mais si sur cette puce-là, il y a 6300 protéines, toutes les protéines de la levure. C'est un travail fait par des collègues américains à Yale. Vous voyez un grossissement ici. Et donc, chaque spot ici, c'est une protéine qui est marquée avec la fluorescence. Et donc, on arrive à faire en gros les mêmes choses. Regardez dans une cellule cancéreuse versus une cellule saine. Pas là, puisque ça, c'est de la levure. Mais si on fait la même chose chez l'humain, trouver les protéines qui sont présentes dans les cellules saines par rapport aux cellules cancéreuses, etc. Donc, la finalité est la même. Hein. Simplement, l'objet biologique qu'on mesure est différent. Et je vous rappelle, dans chacune de nos cellules, on a 2 à 5 millions de protéines. Donc, il faut pouvoir paralléliser. Ici, on commence à avoir des grandes quantités de protéines, puisqu'on est ici à 6 000, mais on arrive maintenant jusqu'à 30 000 protéines sur une puce. Alors, toujours dans ce gros axe générique des biopuces, on est allé plus loin dans les objets biologiques qu'on étudie. Et maintenant, on arrive à faire des puces à cellules. Alors, pourquoi on fait ça? Chaque fois qu'on fait un développement technologique, c'est pour une raison et pour répondre à une question. Et c'est pour trouver la fonction des gènes. Alors, vous savez ou vous ne savez pas, je vous le dis aujourd'hui, que on a les 36 000 gènes humains, ont été séquencés, on sait exactement où ils sont dans votre ADN. On sait où ils commencent, on sait de quoi ils sont constitués, mais on ne sait pas à quoi ils servent. On sait à quoi servent uniquement 20% d'entre eux. Donc, pour en gros 25 000 gènes, on ne sait pas du tout à quoi ils servent dans la cellule. Il reste un travail gigantesque, bien que le génome humain ait été séquencé, il reste un travail gigantesque pour des milliers de biologistes dans le monde et pour des centaines d'années pour comprendre la fonction de tous ces gènes-là dans la cellule. Le meilleur moyen pour aborder ça, pour les scientifiques et les biologistes, c'est soit de faire du gain de fonction, c'est ce qui est écrit ici, soit de faire la perte de fonction. Je m'explique. Pour un gène dont on ne connaît pas la fonction, on se dit, je vais le mettre en grande quantité dans la cellule, plus que j'en ai d'habitude. Je vais en mettre en grande quantité et je vais regarder à quoi ça aboutit. C'est un peu comme chez le garagiste, hein, vous allez voir mieux avec la perte de fonction. Donc, soit on fait du gain de fonction, on met en grande quantité, soit on fait de la perte de fonction du gène, c'est-à-dire je l'enlève et je regarde ce qui se passe dans la cellule. Ce faisant, j'espère avoir une idée de la fonction du gène. Donc, c'est comme chez le garagiste. Pour trouver la panne, on enlève les pièces une à une et on regarde celle qui provoque la panne et on la change éventuellement. Là, donc, c'est la même façon de procéder. Les scientifiques ne sont pas si ingénieux que ça, puisqu'on procède exactement de la même façon en enlevant les gènes 1 à 1. Mais je vous rappelle, ils sont 30 000 et ils sont très nombreux. Il y en a 25 000 dont on ne connaît pas la fonction. Donc ça, on savait le faire au singulier. Je reprends mon exemple tout à l'heure. Au singulier, on savait faire du gain de fonction, de la perte de fonction. On faisait ça dans des souris. Donc dans une souris, on pouvait mettre un gène en excès, ou ici, à l'inverse, l'enlever et regarder ce que ça faisait. Donc on regardait ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire à quoi ressemble la souris. Donc là, sur cet exemple qui illustre ici, on a une souris qui est noire et marron. Et quand on enlève un gène X, on va l'appeler, qui est figuré en rouge ici, mais on s'est aperçu que la souris, elle n'est plus que marron. Tout ce qui est noir avait disparu. Donc on peut se dire, ce gène, il est responsable de la coloration de la peau de la souris. Donc c'est aussi simple que ça, mais ça, il faut pouvoir le faire de façon parallèle, puisqu'on en a 25 000 à faire. Et là, je vous ai donné une ordre d'idée. Pour faire des souris comme ça, transgéniques ou ce qu'on appelle knock-out, celle où on enlève un gène, il faut à peu près 2 ans. On a 25 000 gènes à trouver, donc ça fait même plus, ça fait 70 000 ans avant de trouver toute la fonction des gènes. Ou alors on met 70 000 personnes dans mon labo et on le fait en un an, mais je ne pense pas qu'on va occuper ça. Bon, donc c'est un peu pour plaisanter, mais c'est vrai que ça demande énormément de temps. C'est pour ça qu'il faut essayer d'augmenter la vitesse de compréhension, enfin de ces analyses, pour comprendre la fonction des gènes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de biopuces pour paralyser ces fonctions. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans notre laboratoire plus particulièrement, où on fait des puces à cellules pour permettre ces études de gain de fonction, de perte de fonction, de manière massivement parallèle, idéalement tous les gènes à la fois. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on dépose soit les gènes en gain de fonction, soit des objets biologiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui nous permettent de faire perdre la fonction des gènes sur une puce de verre, et puis on va faire pousser les cellules par-dessus, et les gènes qui sont en gain de fonction, soit en perte de fonction, vont rentrer dans les cellules, mais vont rentrer dans les cellules que dans les cellules qui sont en contact direct avec le spot qu'on a fait. Donc c'est des micro-dépôts, et au bout du compte, ça donne, sur cette diapo-là, vous verrez mieux, j'espère, vous regardez ici, c'est un grossissement hein, de ce qui est ici. Vous voyez en bleu ici les cellules. Donc c'est les cellules qui sont déposées sur toute la surface de la puce. Vous voyez ici en couche monocellulaire. Et en vert ici, ce sont des cellules dans lesquelles on a fait un gain de fonction. Pour que vous puissiez visualiser, on a pris une protéine qui vient d'une méduse, qui est verte, qui fluoresce dans l'UV. Et qui donne une couleur verte. Donc on voit que quand on fait du gain de fonction, c'est-à-dire qu'on fait fabriquer cette protéine dans ces cellules-là, qui sont en contact direct, on voit les cellules. Donc ça, on peut, vous voyez ici, chaque point ici, ça va être un gène particulier. On va mettre ce gène en gain de fonction dans les cellules, et idéalement, on peut avoir 25 000 spots là, comme ça, et regarder la fonction dans la cellule. Alors, les fonctions qu'on regarde, vous voyez ici mieux, vous voyez les cellules qui sont, on appelle ça transfectées, qui ont le gène en excès. Donc là, les cellules qui ne sont pas transfectées. Et là, les cellules, ça fait 200 microns ici. Un îlot de cellules qui sont transfectées, c'est-à-dire qui, pour un gène donné, le fabriquent en quantité excessive et on peut regarder ce que ça fait. Encore une fois, le vert, c'est juste une indication. Alors, qu'est-ce qu'on regarde par exemple, nous, on a regardé... chercher les gènes parmi les 25 000 dont on ne connaît pas la fonction, ce qui est impliqué dans la formation du muscle. Vous avez vu tout ce week-end le Téléthon qui finance le Généthon. Donc c'est un laboratoire dans notre campus, à côté duquel on travaille, dont l'objet est d'essayer de comprendre les maladies génétiques. Et beaucoup d'entre elles concernent les dystrophies musculaires, c'est-à-dire des dysfonctionnements des muscles. Donc ça serait bien de comprendre parmi les 30 000 gènes humains et les 25 000 dont on ne connaît pas la fonction, tous ceux qui sont impliqués dans la formation du muscle, pour voir si le dysfonctionnement d'un d'entre eux n'est pas à l'origine de ce dysfonctionnement. Donc ici, sur nos puces à cellules, on a mis des cellules musculaires progénitrices, c'est-à-dire des cellules qui ne sont pas encore spécialisées, qui pourraient devenir plein de choses, et qui ne sont pas encore des cellules du muscle. Donc on a ces cellules... chaque point vert, c'est une cellule, c'est le noyau de la cellule qu'on a coloré en vert. Et puis, on a mis des gènes, X1000, et on a regardé tous ceux qui provoquaient la formation de la fibre musculaire. Et vous voyez cette formation par ces couleurs rouges ici, d'une part, et par le fait qu'il y ait des cellules qui fusionnent entre eux, s'agglomèrent entre eux, elles deviennent plurinucléaires. Vous voyez ici, par exemple, cette cellule qui est ici, que je souligne avec la souris en rouge, à l'intérieur de laquelle il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 noyaux. Vous savez que vos muscles sont faits de fibres. Et ça commence par là. Les cellules musculaires uniques qui sont ici commencent à fusionner entre elles, devenir pluronucléaires et commencent à préformer la fibre musculaire. Et on vérifie que c'est bien une fibre musculaire avec ce marqueur rouge qui nous dit qu'il y a un marqueur spécifique du muscle. Donc on sait que ces cellules... qui n'avaient pas de spécialité, Vous entendez parler de cellules souches, donc c'est proche de ces cellules souches, ce sont des cellules progénitrices, se spécialisent quand on leur met un gène particulier. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce gène-là, mais quand on a trouvé, en mettant plusieurs milliers de gènes, plusieurs gènes qui permettaient la formation du tout début de la fibre musculaire. Donc c'est comme ça qu'on trouve la fonction des gènes, en faisant du gain de fonction, comme je vous l'expliquais, en mettant en très grande quantité, en excès, un gène dans des cellules, et en regardant un phénotype, un aspect particulier, en l'occurrence ici la formation de la fibre nerveuse, on se rend compte que tel gène, le gène 1, le gène 3, le gène 25, participe à la formation de la cellule nerveuse. Et bien entendu, on pourra aller voir chez les malades atteints de dystrophie musculaire si ces gènes-là ne sont pas mutés et dysfonctionnent pour expliquer la dystrophie. Donc ça, on pourrait le décliner, la souplesse de l'outil est telle que là, j'ai regardé la formation de fibres musculaires, mais je pourrais regarder n'importe quoi d'autre, des tas de phénotypes différents, on pourrait décliner sous plusieurs formes, et donc on essaye de faire ça avec d'autres équipes dans le monde, sur essayer de comprendre la fonction des gènes avec ce type d'outil. On espère pouvoir accélérer considérablement la vitesse de compréhension de la fonction des gènes. Donc on a fait le tour du premier axe ici, j'espère que vous êtes encore éveillés et pas endormis, déjà épuisés. Sur ce premier axe que je vais appeler puce, biopuce, hein, même si le biopuce pour moi c'est plus générique, ce terme, encore une fois, il n'y a pas de bonne traduction, c'est bioarray in English, mais on va appeler ça puce. Ça sert donc puce à ADN, puce à protéines, puce à cellules. Ça sert à quoi pour vous demain ou déjà aujourd'hui, hein? Ça sert essentiellement pour ce gros aspect ici, notamment pour les puces ADN et les puces à protéines. En regardant tous les gènes qui s'allument et qui s'éteignent dans les cellules cancéreuses, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou dans d'autres maladies, on peut arriver à faire des diagnostics précoces pour des maladies qui sont difficilement diagnosticables. On peut faire du pronostic, et puis on peut aider les cliniciens à faire de l'orientation thérapeutique, c'est-à-dire à donner le bon médicament au bon patient à la bonne concentration. Alors un exemple sur diagnostic précoce, vous connaissez la polyarthrite rhumatoïde, vous avez peut-être des grands-parents qui l'ont, c'est cette maladie très invalidante qui se traduit par des déformations des doigts, de mains, des doigts de pied, etc., qui est très douloureuse et qui est très difficile à diagnostiquer de façon précoce par rapport aux autres arthroses. Et donc on a travaillé avec une équipe de Cochins sur des puces à ADN, sur du liquide synovial de genoux, de patients atteints d'arthropathies diverses ou de polyarthrite rhumatoïde. Et on a pu, grâce aux puces à ADN, trouver un ensemble de gènes qui permettent de diagnostiquer de façon précoce la polyarthrite rhumatoïde. Et donc ça, il y a des exemples de plus en plus nombreux, notamment en cancérologie, qui montrent que les puces sont déjà très utiles aujourd'hui, même si elles ne sont pas encore au lit du malade. Le pronostic, c'est le devenir du patient, notamment en cancéro. On aimerait bien pouvoir dire comment va évoluer le patient à l'horizon 2, 3, 4, 5 ans. Et l'orientation thérapeutique, comme je l'évoquais, qui rejoint ce qu'on appelle la pharmacogénomique, c'est notamment en oncologie, les anticancéreux qu'on donne aux patients. On sait que dans une grosse partie des cas, ils n'ont aucun effet chez les patients. On ne sait pas pourquoi chez certains patients, un anticancéreux va être hyper efficace. Chez un autre patient, qui a apparemment les mêmes caractéristiques en termes de tumeur même, la molécule ne va pas être efficace. On espère qu'avec ces puces qui permettent de faire des profils, de tirer des profils au niveau des ADN, des gènes qui sont allumés ou éteints, ou au niveau des protéines qui sont présentes ou absentes, on espère pouvoir aider les cliniciens à faire l'orientation thérapeutique. C'est-à-dire on va faire des profils d'ADN, de gènes, sur du sang de patients, avant et après traitement, et on pourra, a posteriori, voir ceux qui ont bien répondu, et dire, tiens, quand on a ces quatre gènes-là, chez un patient, il répond très bien à la drogue. Donc c'est ce qu'on appelle la pharmacogénomique aussi. La toxicogénomique, c'est la même chose au toxique, c'est-à-dire tout le monde n'est pas sensible de la même façon aux toxiques de l'environnement, hein, les métaux lourds, les pesticides, etc. Et il serait important de pouvoir déterminer comment un individu peut répondre à un toxique, et est-ce qu'il faut le protéger plus, ou au contraire, il peut résister plus. Et puis, pour ce qui concerne les puces à cellules, je voulais évoquer, une des applications, c'est la fonction des gènes, et ça, c'est excessivement important pour la compréhension des maladies, et je vous rappelle ce que je disais au début, on a encore plein de choses à découvrir sur les maladies. Voilà donc pour les applications en médecine de ce premier axe des puces, qu'on appelle celui-là les puces. On va rentrer tout de suite dans le deuxième axe, qui est, j'ai appelé les labos puces avec la microfluidique, avec au cœur des labos puces la microfluidique, et je vous rappelle ce que je vous ai dit, c'est la microfluidique est au biopuce ce que le transistor est aux puces électroniques. C'est vraiment le cœur, et c'est là que, même en termes de marché éventuel, qui moi personnellement ne m'intéresse pas beaucoup, mais si quelqu'un voulait créer une entreprise, c'est aujourd'hui que se décide ce que vont être les standards en termes de microfluidique, comme le Intel du transistor pour les puces électroniques. Par exemple. Alors, le meilleur exemple de réduction de taille que je vous ai montré déjà ici, on le voit aussi pour les labos puces. Ici, vous voyez un ordinateur de taille classique, comme celui qui est là-bas, à côté de lui, qui fait en gros deux ordinateurs d'assez grosse taille, c'est un cytomètre de flux. Les cytomètres de flux, ça permet de trier des cellules, notamment des cellules sanguines pour faire du diagnostic, etc. Donc ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, et même il y a déjà un petit moment, c'est des collègues de Caltech, California Institute of Technology, en 99, donc c'est pas récent, hein. C'est la même chose que ça, qui prend une paillasse entière, donc qui viendrait jusqu'ici, sur, du bout là-bas, ici. Ils ont réussi à faire, dans une toute petite puce, qui est plus petite que ça, hein, dans du verre, des canaux qui sont ici font 100 microns, donc un micron c'est un millionième de mètre, hein. Ici ils font 3 microns, et donc ça me permet de trier des cellules, je ne rentre pas dans les détails, on met à la poubelle ou on récolte avec un système, mais avec ces tout petits canaux qui font 4 microns de profondeur, on arrive à trier des cellules, de la même façon qu'on fait avec cette grosse machine qui prend un labo entier. Donc vous êtes bien dans le même parallèle que j'évoquais tout à l'heure. Alors la différence, c'est que la machine de paillasse, elle trie à 20 000 cellules par seconde aujourd'hui. Ça trie à 200 cellules par seconde. Mais en revanche, ça c'est parallélisable, comme tout à l'heure. C'est-à-dire ici j'ai un canal, mais je pourrais avoir 10 000 canaux côte à côte sur cette surface-là. Et donc augmenter la vitesse de façon considérable pour trier des cellules qui m'intéressent, soit des cellules souches, adulte, vous avez des cellules souches dans votre corps aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que même à 70 ans, on a encore des cellules souches, c'est-à-dire des cellules qui sont capables de vous renouveler pour partie. Ben, si on veut les trier, ces cellules souches, à partir de peau humaine, c'est ce qu'on fait dans mon laboratoire par exemple, il faut pouvoir les repérer, elles sont toutes petites, elles font 10 microns, hein, et puis les trier. Et donc, ça nous permet de faire ça, et on va pouvoir le faire sur des toutes petites quantités, ce qui nous permet d'économiser énormément de cellules. Autre outil, biopuce, et là plutôt labopuce, toujours pour le tri cellulaire, pour aller chercher des cellules cancéreuses spécifiques ou des cellules souches, c'est un système qui a été développé par des collègues de Grenoble au CEA, en collaboration avec une boîte italienne qui s'appelle Silicon Biosystems. Donc ça aussi, ça a été fait dès 2001. C'est une matrice d'électrodes, sont des toutes petites électrodes qui font 10 microns. Donc sur une surface comme ça, vous pourriez en avoir plusieurs millions sur la surface qui est ici. Et quand on met du courant dans un milieu spécial, quand on met du courant sur une électrode comme ça, ça fait ce qu'on appelle une cage d'électrophorétique. Donc c'est vraiment une cage où on peut faire de la lévitation. Et si vous avez une cellule, ou une bille en l'occurrence, qui est emprisonnée dans la cage électrophorétique, qui ne peut plus bouger, et si je passe le courant ici, elle va venir ici, la cellule, si je le passe ici, elle va venir ici, donc je peux l'isoler, une cellule unique, et l'amener où je veux et la récupérer. Donc on arrive, grâce à ces outils à biopuce, à pouvoir trier des cellules importantes. Et puis, il y a des choses plus complexes qui se mettent en place, donc ça c'est un travail aussi de collègues du CEA Grenoble au LETI, qui est un laboratoire important du CEA à Grenoble, qui ont fait cette micropuce, qui utilise tout à fait les technologies de la microélectronique. Vous voyez ce qu'on appelle un wafer en microélectronique, c'est-à-dire une espèce de couche de silicium sur laquelle on peut fabriquer des dizaines de puces, donc ça réduit énormément le coût. Et dans ces puces-là, on va faire, au bout du compte ici, c'est une puce à ADN comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va pouvoir dire si les gènes sont allumés ou éteints, d'accord. Mais des fois, on a des toutes petites quantités. Par exemple, prenons les OGM. Donc, dans votre soupe de soja, je ne sais pas si ça existe, ou sauce soja, vous voulez savoir s'il y a des OGM. Mais ils sont en tellement petite quantité par rapport au nom de nos OGM, soja normal, c'est difficile à quantifier pour les chercheurs. Donc il faut pouvoir essayer d'amplifier ce tout petit soja modifié pour savoir s'il y en a vraiment. Donc ça, on a une technologie, c'est la photocopieuse à ADN, à gène. Ça s'appelle la PCR, peu importe son nom. En fait, quand on a un gène, on sait le photocopier, en faire 10 millions dans un tube, hein. Pendant une cellule. Dans un tube, j'extrais les gènes d'une cellule et je ne sais pas si je n'en ai pas assez, donc je peux le photocopier pour avoir assez pour pouvoir mesurer. Donc ça, on savait le faire dans des échelles comme ici ou dans des grosses boîtes comme ça. Et maintenant, on peut le faire sur des puces toutes petites comme ça. Hein. Vous les voyez, c'est encore une fois, ici, il y en aurait plusieurs millions de ces puces-là, de cet outil-là. Et dans cet outil, vous pouvez faire cette photo. Vous avez des petits canaux comme ça qui font 100 microns de profondeur, 100 microns ici. On met la sauce soja ici. On va amplifier, faire la photocopie spécifique des sojas génétiquement modifiés, tout le long ici. Je passe sur les détails techniques. Et puis au bout du compte, ici on a une puce ADN qui nous dit l'ADN soja modifié est présent dans la sauce de soja. Donc ça, c'est un prototype qui a été fait au début des années 2000 et qui est en train de passer à l'échelle plus production. Donc ça existe vraiment et c'est fait en collaboration avec ST Microélectronique. ST Microélectronique étant le quatrième producteur mondial de puces d'ordinateurs. Hein. Donc les applications de ça, effectivement, on l'a évoqué, les organismes, excusez-moi, non, c'est pas en anglais. Les organismes génétiquement modifiés, en diagnostic médical pour certaines maladies génétiques ou en mutation, on a toute petite quantité de cellules mutées, il faut pouvoir amplifier, photocopier, en pronostic, et puis en contrôle environnemental, la qualité des eaux, etc., pour voir s'il y a une bactérie dans le volume de cette pièce ici, on pourrait filtrer tout le volume et aller chercher la bactérie qui est présente pathogène en faisant sa photocopie sur une puce. Alors, ce n'était pas très parallélisé ce que je vous ai dit, mais maintenant, donc ça c'est un travail encore d'une équipe de Caltech aux États-Unis. Ils ont réussi à paralléliser ces systèmes microfluidiques. Et ici, on a sur une toute petite surface encore, vous voyez ici, l'échelle c'est 1 mm, on a 1000 chambres de à peu près 200 picolitres. Donc je vous rappelle, le picolitre, c'est ça divisé par 1 milliard de Chinois. Hein. Ça fait la quantité 1 picolitre. Donc là, on a des tout petits volumes. On a 1000 chambres comme ça qui font 200 picolitres. On peut adresser du liquide dans chacune de ces chambres et mesurer ce qu'on veut. Donc ici, Stephen Quick, qui fait ce travail, l'a fait pour faire en fait des mémoires froides, sans électricité, donc sans chaleur. L'électricité dans les mémoires, dans vos ordinateurs, vous avez des ventilateurs, parce que ça chauffe énormément. Ici, il fait tout ça avec du liquide. Et vous voyez ici, là, marqué sur ces toutes petites chambres qui font quelques picolites, CIT pour California Institute of Technology. Lui, il s'en sert de mémoire, mais en biologie, on peut s'en servir pour faire des tas d'études et regarder tout ce que je vous ai dit en termes d'application précédemment. Donc, on arrive même maintenant à paralléliser tout ça et adresser des milliers ou des millions de chambres individuellement avec des toutes petites quantités de liquide. Alors, à quoi ça sert tout ça? C'est bien beau de s'amuser à faire de la technologie, mais il faut qu'il y ait un but. Le tri des cellules, on l'a vu, hein, je vous l'ai montré. Donc, il est important de pouvoir trier les cellules, que ce soit pour faire de la fécondation in vitro, par exemple, ou du diagnostic préimplantatoire, que ce soit pour sortir spécifiquement des cellules souches d'un organisme adulte. On en a très, très peu. Une pour 10 000, il faut pouvoir la trier. Ou alors, pour aller trier des cellules cancéreuses, rêvons un rêve de biologie, ça serait que dès qu'on a une tumeur cancéreuse de 0,1 mm, toute petite, il y a quelque chose qui sonne, une lumière qu'on est sur le crâne ou sur la lunette, et qui commence à faire bip, 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 il y a une tumeur. Donc il faudrait pouvoir opérer les cellules cancéreuses dès qu'elles sont une cellule, avant qu'elles se multiplient. Vous savez que les cellules cancéreuses, en fait, c'est une cellule qui doit plus diviser, on appelle ça quiescente. Hein. Une fois que vous avez votre foie de la taille normale, on ne veut plus de cellules. On ne veut plus de cellules supplémentaires. Je vous ai dit, on perd des cellules tous les jours, des milliards, mais de la peau, des cheveux, de tous les tissus qui sont en renouvellement. Mais la plupart de vos tissus, comme vos muscles ou le cerveau, le foie, une fois que l'organe atteint sa taille, les cellules ne vont pas se diviser. Ce n'est pas le but du jeu. L'organe a atteint sa taille, vous avez atteint votre poids et votre taille normale, génétiquement programmée, même si des facteurs épigénétiques peuvent jouer, ma nourriture notamment. Une fois que vous avez atteint cette taille-là, ça ne doit plus bouger. Alors, ce qui bouge aussi en tissu renouvelable, c'est les adipocytes, les tissus gras. Ça, vous avez sûrement fait l'expérience, ça gonfle, ça dégonfle. Les cellules se propagent ou pas. Mais il y a des cellules qui ne doivent pas se diviser. Donc, le cancer, simplement une cellule qui pète les plombs un peu et qui dit, moi, je vais me diviser, commence à se diviser, etc. Donc, il faudrait pouvoir les repérer très rapidement dès qu'elles commencent à se diviser et pouvoir les trier spécifiquement des cellules cancéreuses pour pouvoir éventuellement les éliminer. Donc, le tri cellulaire sur de toutes petites quantités jusqu'à la cellule unique, c'est utile et on espère pouvoir y arriver. Il y a tout l'aspect délivrance de médicaments dans le corps. On peut très bien concevoir sur votre aorte un jour, avoir une puce de microfluidique, toute petite, pratiquement microscopique, qui va mesurer votre cholestérol sur l'aorte, analyser le résultat sur un ordinateur à l'extérieur par une liaison radio ou infrarouge, peu importe, et délivrer in situ sur votre aorte en temps réel, la quantité de médicaments nécessaires. On pourrait concevoir ça, et pour d'autres aspects, pour l'épilepsie, etc. Et puis, bien entendu, il y a tout l'aspect analyse médicale. Ça, c'est classique, donc vous en avez tous fait. Quand on vous fait une prise de sang, on est en train encore de prélever plusieurs millilitres, hein, donc plusieurs flacons bien plus gros que celui-là. À terme, on pourra, en utilisant des choses comme ça, prélever une toute petite goutte, et au lieu de mesurer un paramètre, on pourra en mesurer 10 000 sur cette goutte-là. Ou alors, même sur une puce comme ça, on pourra mesurer des paramètres de 10 000 individus différents sur une toute petite goutte. Donc ça sera meilleur marché, ça sera plus rapide, parce que plus c'est petit, plus c'est rapide, c'est une loi physique, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sera portable, donc on pourra faire, pourquoi pas, j'invente, mais cracher dans son téléphone portable pour faire une analyse de la salive à Bamako et l'envoyer via votre téléphone portable à votre médecin à Bordeaux. C'est pas si utopique que ça. Et puis, bien entendu, tout ce qui est diagnostic, on l'a vu. Bon, pour ceux qui sont encore vivants, donc on arrive au bout et on arrive au troisième aspect. Peut-être le plus intéressant, mais celui qui est plus science-fiction. Donc j'espère que ça vous plaira plus encore. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est assez réel. Ça existe aujourd'hui et ce n'est qu'en train de s'améliorer, de se peaufiner, de devenir plus robuste, etc. Donc pour entrer un peu dans la science-fiction, c'est ce qui méritera le plus le nom de biopuce en sus stricto, c'est l'interface entre l'électronique et le vivant. Et bon, ça c'est un peu provocateur, vous voyez ma souris ici. Domestiquer le vivant pour les systèmes et bioélectroniques, c'est-à-dire en retour des choses, autant l'électronique, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, les techniques de la microélectronique, voire de la nanofabrication, nous permettent de mieux analyser le vivant, et en échange, peut-être le vivant va leur permettre de faire des systèmes plus efficaces aussi. J'aborderai ça un tout petit peu à la fin, mais là on est vraiment dans la science-fiction. Mais il y a déjà des choses qui existent. Alors, la communication entre le vivant et l'électronique, ça existe déjà. Donc ça, c'est des collègues allemands du Max Planck Institute qui ont fait ça en 2001 et qui continuent à travailler. Donc ici, on a un transistor électronique. Les transistors électroniques, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a une source, il y a un drain, il y a un portail, et donc ça permet de faire un transistor. Et là, avec des stimulateurs électriques, hein, donc on oublie tout ça, c'est juste de l'électronique, on va dire, et ça peut envoyer un signal électronique. Et puis là, on a ces petits piquets ici, que vous voyez ici de profil, qui sont des piquets qui permettent de piéger une cellule. Donc ici, ce sont des cellules qui sont très très grosses. Ça fait 100 microns, cette barre d'échelle. Alors j'espère que, même si je suis conscient, pour certains d'entre vous, microns, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, c'est petit, ça fait un dixième de millimètre, hein. Et ici, ça fait 20 microns. Donc c'est encore plus petit, c'est 5 fois plus petit qu'ici. Donc ces petites barrières ici piègent une cellule. Alors la cellule, en l'occurrence, ce n'est pas une cellule humaine, c'est une cellule d'escargot. Ses collègues allemands ont pris cette cellule d'escargot parce qu'elle est très grosse. Vous voyez, elle fait à peu près entre 30 et 40 microns. Si ça fait 20 microns, on va dire ça fait 40 microns à peu près. Une cellule humaine, en moyenne, c'est 10 microns. Donc celles-là sont très grosses, c'est une cellule unique et c'est une cellule nerveuse. Donc ça, c'est de profil. De dessus, en plan, on voit ça. Donc on a des cellules uniques piégées dans ces barrières. Et puis elles vont développer leurs axones. Vous savez, les cellules nerveuses, ça fait des gros filaments pour aller se connecter à la cellule nerveuse qui est un peu plus loin. C'est pour ça que vous pouvez passer de l'influx nerveux de votre cerveau vers ma main ici, parce qu'il y a une connexion de cellules nerveuses entre elles via des longs filaments, elles se connectent les unes aux autres et elles transmettent un influx nerveux. Donc ici, c'est ce que j'ai. J'ai ma cellule nerveuse, le corps de la cellule qui est ici, et elles vont développer ce qu'on appelle un axone ou un dendrite et aller se connecter avec d'autres. Alors pourquoi on les piège ici dans une barrière? Parce que sinon, elles bougent. Elles se connectent et puis elles se déplacent. Les cellules, c'est très vivant et très actif et ça bouge beaucoup. On a du mal à les maintenir, même si ça bouge lentement. Donc là, on met une barrière pour les piéger. Et elles vont se connecter. Et grâce à ce système, pour la première fois, Peter Frommes a pu faire un système neuroélectronique avec des transistors électroniques qui peuvent soumettre un influx électrique des cellules nerveuses qui vont contacter une autre cellule nerveuse à travers la connexion qu'on appelle synaptique, la connexion naturelle entre cellules. Et puis on va récupérer le signal qui est passé entre deux cellules nerveuses sur un autre transistor électronique qui est ici. Donc on a un circuit électronique vivant, électronique. Je passe sur le rapport électronique ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on peut donner un signal électrique ou électronique à une cellule, elle va le transmettre à une autre cellule via une transmission classique en biologie, et on va récupérer ça sur une autre cellule. Je viendrai sur les applications de ça, et je vais finir sur l'utilisation du vivant pour l'électronique. Ça, c'est une molécule d'ADN, donc c'est une nanostructure, et même si les nanotechnologies font peur, faisons-nous peur nous-mêmes, parce que notre ADN, c'est une nanostructure, ça fait 2 nanomètres, 10 puissance 9 mètres de largeur, et puis un tour d'hélice d'ADN, ça fait 3,4 nanomètres. Donc étant donné que c'est une nanostructure, des électroniciens ont pensé à pouvoir le peigner. Quand on met de l'ADN dans un champ électrique, le filament d'ADN il s'étire, vous le voyez ici en vert, et puis ça peut faire des connexions entre deux électrodes ici. Vous voyez un filament d'ADN unique qui connecte entre deux électrodes. Donc ils ont des difficultés aujourd'hui à diminuer la taille des mémoires. Vous savez, la loi de Moore, on va arriver au bout, parce qu'on ne peut pas aller plus loin en miniaturisation, sauf à passer à l'atome. Mais si on passe à l'atome, on a des problèmes de connectique, et l'ADN pourrait servir de connexion, puisque c'est une nanostructure naturelle, on pourrait faire joindre deux électrodes par un morceau d'ADN et permettre la connexion entre les deux. Donc ce serait un juste retour de la biologie vers l'électronique, sauf qu'il y a un problème, c'est que l'ADN, ça conduit très mal le courant. Ce n'est pas fait pour ça. Alors, il y a des gens qui pensent à mettre des molécules métalliques au milieu de l'ADN pour pouvoir connecter, donc vous voyez ici, ça s'appelle de l'ADN métallique. On met des molécules de cuivre ici au milieu de l'ADN pour pouvoir connecter deux structures. Vous voyez, ça a été fait ici. Et le courant commence à passer. Alors, quelles sont les applications médicales sur la partie... Pas sur la partie nanoconnectique, je ne vais pas en parler, je ne sais pas si ça sera vraiment utile, etc. Mais sur la partie interface vivant électronique que j'ai montré avec la puce de Peter Frommes. Mais ce sont des systèmes neuroélectroniques, on l'a vu, avec un circuit électronique vivant. Et c'est surtout toute la possibilité de la réparation fonctionnelle. Donc on est plus dans la science-fiction, encore une fois, mais on peut concevoir avec des systèmes comme ça, le jour où on les maîtrisera complètement et qu'on arrivera à les paralléliser, puisqu'on a des milliers de terminaisons nerveuses, on peut envisager de réparer des fonctions nerveuses endommagées, coupées, pour récupérer le signal nerveux qui viendrait jusqu'à un nerf avant sa coupure, passer sur une puce pour retransmettre cette information sur le bout du nerf et aller réparer la fonction nerveuse endommagée. C'est de la science-fiction, mais Hubert Reeve, le Superman, Monsieur Superman, qui est mort récemment, qui avait eu cet accident de cheval, paraplégique, ouais. Il croyait beaucoup et se battait pour ça. Oui, Reeve, hein, mais c'est pas Hubert, c'est Christopher, merci. Mais ça commence à exister un petit peu pour les rétines artificielles. Commence à y avoir dessus, et pour les implants cochléaires de l'oreille, pour mieux entendre. Donc c'est de la science-fiction, mais pas vraiment, même s'il reste encore énormément de travail avant que ce soit. Donc voilà, les biopuces, c'est certainement pas la domestication des fourmis pour fabriquer des puces électroniques, c'est des outils électroniques pour fabriquer des vivants, mais peut-être qu'un jour on utilisera son ADN de fourmis pour fabriquer des systèmes électroniques. Voilà, je vais arrêter ici en vous remerciant pour votre attention et en vous remerciant de ne pas vous être endormis.